L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 7 heures. Le 15 juillet 1905, en plein été, le soleil se lève tôt. Mais déjà, en ce lendemain de fête nationale, quotidiens et revues sont en vente à Paris comme dans toute la France. Parmi les parutions du jour, on trouve le 6e numéro de la revue mensuelle Je sais tout. Pour la première fois, les lecteurs français y découvrent le nom d'un personnage qui va devenir un mythe de la littérature grand public, du théâtre, puis de la télévision et du 7e art. Arsène Lupin. Il est 7h du matin, ce 15 juillet 1905, et c'est l'heure H de mon histoire. La nouvelle que publie Je sais tout s'intitule « L'arrestation d'Arsène Lupin ». Or, en ce début du XXe siècle, on se passionne pour les récits à énigmes. 40 ans auparavant, Émile Gaboriau a fait recette avec les enquêtes de son inspecteur Lecoq. Edgar Allan Poe a créé son détective amateur Le Chevalier Dupin et de 1887 à 1927, l'ombre de Sherlock Holmes rayonne sur le monde, une loupe à la main et ses déductions à l'esprit. La presse quotidienne déverse des litres d'hémoglobine qui ravissent un public avide de crimes macabres et de meurtres spectaculaires. Ce genre de faits divers fait frémir les lecteurs. Un tel enthousiasme n'a pas échappé à un certain Pierre Laffitte. Cet ancien journaliste sportif, grand amateur de cyclisme, se consacre au lancement de divers magazines. Laffitte, qui a 33 ans, sent d'où souffle le vent. Il perçoit très vite l'intérêt commercial de ce type de publication. Il a créé un petit empire de presse qui va satisfaire les attentes du public et promouvoir les activités à la mode. D'abord, il a lancé une revue illustrée consacrée au sport. Ensuite, Femina, la revue idéale de la femme et de la jeune fille. Puis, Fermé Château, un magazine de country life à la française. Il enchaîne avec des périodiques pour les jeunes. Puis, pense à une publication encyclopédique, mais de la vie moderne. Et ce sera « Je sais tout ». Il lui faut dès lors des sujets branchés. Il veut des articles sur l'élégance, les arts, les loisirs sportifs, les personnalités du moment, les stars de l'actualité. C'est déjà toute une époque nouvelle qui se dessine. Une toute autre conception du journalisme et de la presse. D'autant que Laffitte veut aussi introduire des textes littéraires. Mais attention, il lui faut des courts récits originaux. Courts car il aime ce qui va vite. Les sports, l'automobile, la réussite. Il pense immédiatement à Maurice Leblanc, qu'il a rencontré dans un club cycliste et avec lequel il a noué de solides liens d'amitié. Ah, il sait qu'il a un joli brin de plume, qu'il a écrit dans Gil Blas, qu'il s'essaie à la littérature sérieuse, mais qui, comme il l'avoue, demeure enfermé dans un cercle de romans de mœurs et d'aventures sentimentales. C'est donc à ce Normand qu'il fait appel pour lui écrire des nouvelles. « Mais des nouvelles qui passionneront le public !» précise Laffitte. Et il continue. « Vous savez, mon cher Leblanc, il faut de l'aventure, un peu de suspense, un héros sympathique, de la romance, pourquoi pas, et aussi une pensée de mystère. Les gens adorent ça, à commencer par mon public. » Maurice Leblanc est un peu décontenancé, mais il s'attelle à la tâche, faisant confiance à son imagination débordante. Ainsi apparaît pour la première fois notre héros, le bel Arsène, Arsène le mondain, l'escroc, le séducteur. Arsène qui déboule dans la littérature populaire avec l'étiquette définitive de « gentleman cambrioleur ». Et immédiatement, ce sera une réussite. Il suffit pour le comprendre de relire la première aventure que rédige Leblanc. Il a compris l'attente de Laffitte. Il a du talent et une rare habileté. La première apparition de Lupin a pour cadre un transatlantique luxueux qui vogue vers New York. une société choisie, il noue des relations mondaines et se divertit d'une manière exquise. Le deuxième jour de la traversée, le télégraphe sans fil avertit le commandant qu'Arsène Lupin, notoire et redoutable cambrioleur, est à bord sous le nom d'emprunt de R. Mais brusquement, le message s'interrompt. Un violent orage a rompu les ondes électriques. Qui est ce R derrière lequel se cache le voleur? La suspicion, puis la panique, envahissent les passagers. Une lady se fait voler une partie de ses bijoux, ce qui n'empêche pas un certain monsieur d'Andrézy de s'amouracher d'une jolie Miss Nelly. Ce d'Andrézy est le narrateur de l'histoire. Mais ce d'Andrézy n'est autre qu'Arsène Lupin. Lupin qui voyage sous ce patronyme. Lupin qui, à l'arrivée à New York, est arrêté par son implacable ennemi, l'inspecteur français Ganimard. Ce qui accroche les lecteurs, c'est la belle littérature qui évoque d'abord l'enchantement d'une telle croisière. C'est surtout une surprise de taille. Le narrateur de l'histoire n'est autre que le coupable. On prétendra plus tard que c'est Agatha Christie qui a inventé cette astuce pour le crime de Roger Ackroyd. Erreur. En 1905, la reine du polar anglais n'avait que 14 ans. Autre atout. D'emblée, Lupin attire la sympathie. Sa manière d'agir est teintée d'humour. Cambrioleur, certes, mais d'abord dilettante. Lupin se divertit de la pièce qu'il fait jouer. Lupin vole par goût, par vocation, mais également par amusement. Rien n'est sombre ni dramatique. Le récit reste léger. Lupin est un filou, un artiste en son genre. Dès la première apparition du héros, nous apprenons beaucoup à son sujet. En moins de 15 pages, le romancier le construit, l'habille, l'individualise. On sait qu'il marivaude, tout en restant homme du monde. On apprend qu'il use de 1000 déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe ou torero espagnol. Les policiers qu'il traque ne l'ont d'ailleurs jamais vu que grimé et déguisé. On voit bien entendu Lupin s'enflammer pour une jolie femme et poser, comme il le dit, sa candidature de flirt. Élégance, élégance. Élégance aussi quand il fait main basse sur des bijoux. Il ne les vole pas, il les choisit. Élégance aussi quand il s'adresse à Ganimard venu l'arrêter à sa descente du paquebot. Oh, dommage tout de même de ne pas être un honnête homme. On comprend que les lecteurs et les lectrices de Je sais tout adorent et adoptent immédiatement Lupin. Des milliers de lettres arrivent à la rédaction du mensuel. Le public veut une suite dans les plus brefs délais. Que vont faire Lafitte et surtout Maurice Leblanc, hein?
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de la création du plus grand gentleman cambrioleur. Je vous emmène sur les traces du très célèbre Arsène Lupin. En ce début du XXe siècle, on se passionne pour les récits à énigmes. La presse quotidienne déverse des litres d'hémoglobine qui ravissent les lecteurs. Un tel enthousiasme n'a pas échappé à un certain Pierre Lafitte, qui possède son petit empire de presse. Pour alimenter un de ses magazines, il fait appel au romancier Maurice Leblanc. Il lui demande de l'aventure, du suspense, un héros sympathique, de la romance et aussi une pincée de mystère. Lafitte et Maurice Leblanc n'avaient pas prévu un tel emballement national. Lafitte se frotte les mains, se réjouit de son choix. À 41 ans, Maurice Leblanc est grisé par le succès. Il n'a jamais connu ça. Lafitte veut le remettre au travail, oui, mais... Oui, il y a deux problèmes. D'abord, l'auteur rechigne. Ah oui, il ne veut pas continuer, il refuse de devenir un auteur étiqueté « écrivaillon populaire ». Le genre mystère et policier est mal considéré dans les milieux littéraires. Ce qu'il veut être, c'est, comme il le dit à Lafitte, un romancier de la vie délicate des âmes. Lafitte s'esclave. « Et ça a du succès, ça, la vie délicate des âmes ?» demande-t-il à Leblanc. Ce dernier réfléchit et doit reconnaître que non. « Bon, admettons, dit l'auteur, qui demande à réfléchir. » Le second problème est de taille, et Leblanc s'en ouvre à Laffitte, comme il le racontera plus tard. Je lui fis remarquer qu'à la fin de ma nouvelle, j'avais coupé court à tout développement ultérieur en fourrant mon héros en prison. Et oui, en effet, comment voulez-vous donner une suite à la carrière d'un malfrat quand son créateur vient déjà de le faire arrêter et emprisonner ? Leblanc est coincé dans une impasse d'écriture. Ce genre d'obstacle n'arrête pas le directeur de « Je sais tout ». Laffitte le regarde tranquillement et lui donne la solution. « Eh bien, qu'à cela ne tienne ! Qu'il s'évade !» Il y aura donc un deuxième conte, Arsène Lupin en prison, puis un troisième, l'évasion d'Arsène Lupin. Leblanc imagine que Lupin continue de sa cellule de la santé à diriger ses opérations et ses fric-fracs. Puis qu'il s'évade au nez et à la barbe du directeur et des gardiens. Mais Leblanc se demande, avant de rendre sa copie à Laffitte, si cela est bien imaginable. J'eus la conscience d'aller consulter le chef de la sûreté. Il me reçut très aimablement et s'offrit à revoir mon manuscrit, mais il me le renvoya au bout de 8 jours avec sa carte et sans un commentaire. Il avait dû trouver cette évasion complètement impossible, explique Leblanc. Laffitte ne sera pas du même avis, et les lecteurs non plus. Tout le monde est ravi, nous le sommes aussi, encore aujourd'hui. Dès décembre de cette même année 1905, Lupin fait son retour dans les pages de « Je sais tout ». Habile, Laffitte soigne sa promotion en écrivant avec beaucoup de malice. Nos lecteurs connaissent déjà Arsène Lupin puisqu'ils ont déjà assisté à l'arrestation du génial escroc. La carrière d'Arsène Lupin est loin d'avoir été terminée par cet incident, ainsi qu'on va le voir par la suite ininterrompue de prouesses inouïes dont « Je sais tout » réserve la sensationnelle révélation à ses lecteurs et qui font d'Arsène Lupin le type désormais légendaire du grand voleur, le modèle incontesté du genre. Ah, Laffitte a décidément beaucoup d'intuition et le succès ira croissant, lui permettant de faire paraître ce premier cycle d'aventure en volume dès 1907 sous le titre « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur ». Au fil de la sortie des romans, le personnage va s'étoffer. Sa carrière va évoluer et monter en puissance pendant 34 années de publication, de 1907 à 1941. Avouez que cela aurait été dommage que Lupin n'ait pas pris vie dans la littérature. Pourtant, on vient de l'entendre, il a été à deux doigts de ne jamais exister. Mais d'abord, qui est ce Maurice Leblanc, qui reste peu connu, moins en tout cas que son personnage fétiche ? C'est d'abord un pur Normand, né à Rouen le 11 décembre 1864. Son lien avec le grand écrivain rouennais que fut Gustave Flaubert commence le jour de sa naissance. C'est en effet le propre frère du romancier qui le met au monde. Ce frère, qui a poursuivi la même carrière que son père, grand chirurgien à l'Hôtel Dieu de Rouen et professeur de médecine dans sa ville. Ainsi, l'ombre du grand Flaubert plane sur la tête du petit Maurice dès les premières minutes de sa vie. Et nous verrons que cela va le marquer. Milieu social aisé, famille aimante, un père négociant en charbon, Rouen étant un port prospère, une mère appartenant à une riche famille de filateurs. Georgette, la seconde fille du couple, aura elle aussi un destin célèbre. Très belle, opulente comme l'époque le voulait, elle embrassera une grande carrière de cantatrice et de comédienne. Bien que mariée, elle embrassera aussi notre écrivain national, Maurice Maeterlinck, en devenant sa maîtresse à partir de 1895, et ce, pendant une vingtaine d'années. Le futur créateur de Lupin, lui, entreprend des études orientées vers la littérature. Humanité, baccalauréat et lettres, on le devine, Premier prix d'analyse littéraire, stagiaire à la Société des auteurs, auteur de pièces de théâtre sans grand succès, il commence à écrire des contes et même quelques romans qui resteront discrets. Mais il a une plume dans le sang. Il admire Maupassant. Il fréquente deux écrivains rouennais qui vont lui communiquer leur admiration pour le mouvement libertaire et anarchiste. Retenons ce détail. Il aura de l'importance dans la création de Lupin. En 1889, Maurice fait un beau mariage avec une divorcée, Marie Lalanne, dont il se séparera 6 ans plus tard. Les amours de Maurice sont aussi multiples que les histoires de cœur et de corps de Lupin. Dans sa biographie, on ne cesse de découvrir des photos où les deux passions de Leblanc cohabitent voluptueusement. On y voit des voitures de luxe, style de Dion Bouton, et notre écrivain entouré de jolies et jeunes femmes. Elle sourit sous leur délicate ombrelle et semble moins farouche que les jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Outre l'écriture et la jante féminine, Maurice se passionne aussi pour la bicyclette. Il en fait partout, en Provence et bien sûr dans sa Normandie natale. C'est ainsi qu'il parcourt, parfois avec sa sœur Georgette, tous les chemins secrets du pays de Caux, son pays qui deviendra celui de Lupin plus tard, dans le triangle Dieppe, Rouen, Le Havre. De plus, il adhère à l'Artistic Cycle Club. C'est là qu'il fera la connaissance du journaliste Pierre Lafitte. Rencontre décisive pour lui, pour nous et pour Lupin. Fait chevalier de la Légion d'honneur suite au succès de son Lupin, Leblanc va connaître une vie fortunée. On va le voir au casino et sur la plage mondaine d'Étretat, sur la Côte d'Azur, dans les palaces, en compagnie de jolies inconnues. Son Lupin monte sur les planches et le théâtre s'empare du personnage. La saga Lupin est un immense succès de librairie, comme elle est encore aujourd'hui. À l'époque, les sorties s'enchaînent. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, en 1908. L'Aiguille Creuse, la plus célèbre, en 1909. 813, en 1910. L'inquiétant Bouchon de Cristal, en 1912. Après la Grande Guerre et suite à celle-ci, le ton va se modifier, s'assombrir avec L'île aux 30 cercueils de 1919 et surtout avec Les effrayantes Dents du Tigre, sorties en 1921. Mais le chef-d'œuvre ne paraîtra que 3 ans plus tard avec La maturité. Ce sera La comtesse de Cagliostro. À la lecture de cet ouvrage, on comprend que le portrait que chacun se fait du personnage est bien éloigné du modèle original inventé par Maurice Leblanc. Mais alors, qui est le vrai Lupin?
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de la création du plus grand gentleman cambrioleur. Je vous emmène sur les traces du très célèbre Arsène Lupin. Son auteur, Maurice Leblanc, est maintenant chevalier de la Légion d'honneur. Il connaît une vie fortunée. On le voit au casino, sur la plage mondaine d'Étretat, sur la Côte d'Azur, dans les palaces, en compagnie de jolies inconnues. Son Lupin monte sur les planches et le théâtre s'empare du personnage. La saga Lupin est un immense succès de librairie, comme elle l'est encore aujourd'hui. Mais qui est au juste ce personnage devenu mythique? Qui est le vrai Arsène Lupin? Il nous faut nous méfier des archétypes. Méfions-nous aussi de l'avis des spécialistes intellectuels, des analystes littéraires qui ne font que réinterpréter le mythe. S'il est une personne à qui poser cette question en toute confiance, eh bien, c'est l'auteur. Maurice Leblanc lui-même. Dans un article qu'il publiera le 11 novembre 1933, Leblanc s'explique. « J'ai dû faire d'Arsène Lupin un héros double, à la fois un bandit et un garçon sympathique. Il fallait donc ajouter à mon récit un élément humain pour faire accepter ces cambriolages comme des choses très pardonnables, sinon toutes naturelles. D'abord, il vole beaucoup plus par plaisir que par avidité. Ensuite, il ne dépouille jamais des gens sympathiques. Il se montre même parfois très généreux. Les entraînements sentimentaux lui donnent l'occasion de faire preuve de bravoure, de dévouement et d'esprit chevaleresque. Des événements lui tombent dessus, dont il doit sortir avec honneur, c'est-à-dire un peu plus riche qu'avant. Il se jette dans des aventures pour découvrir la vérité. Seulement, cette vérité, il l'empoche. Voilà l'enjeu. En découvrant la solution de ses enquêtes, Lupin se remplit les poches. Il est une autre dualité chez Lupin. Au fil des divers romans, il est soit bandit, soit détective. Détective, il mène l'enquête et le lecteur progresse avec lui. Malfrat, le lecteur connaît déjà le coupable, puisque c'est justement lui, Lupin. Cette double personnalité, Leblanc l'a voulu pour son héros. Et ici, Leblanc était un peu Lupin. Le romancier aurait-il eu une double nature? Cela se vérifie quand on aborde une autre facette de sa créature, les motivations anarchistes de Lupin. L'écrivain, beau être né et élevé dans un milieu fortuné et très bourgeois, ses parents, bien nantis, ont beau posséder un caveau familial présomptueux au cimetière de Rouen, le jeune Leblanc a des tentations anarchistes. Nous l'avons vu fréquenter des amis écrivains de sa ville qui l'ont initié à la révolte libertaire. Mais il est une inspiration qu'on oublie à propos de sa conception de Lupin. On se souvient que Laffitte le sollicite au début de l'année 1905. L'écrivain hésite. Puis, à la mi-juillet, paraît la première aventure d'Arsène Lupin. Que s'est-il passé entre ces deux dates? Nous le savons, il a assisté à un procès célèbre aux Assises de la Somme à Amiens. Le 8 mars 1905 débute le procès de Jacob et de sa bande. Leblanc est dans la salle. On en a le témoignage. Qui est au banc des accusés? Alexandre Marius Jacob, un anarchiste doublé d'un cambrioleur de grande envergure. Pendant 4 ans, lui et ses 2 lieutenants ont cambriolé des châteaux, des villas, des musées, des églises, dans la France entière. Jacob commandait une équipe de plus de 40 complices. La police a retrouvé chez les malfrats des outils d'une perfection nouvelle. Jacob comparaissait pour plus de 150 cambriolages. Mais ce qui frappe le public, et sûrement Leblanc, l'écrivain, c'est que Jacob apparaît surtout comme un anarchiste militant. Aux Assises, il revendique toutes ses actions comme une lutte contre la société, la richesse et la classe possédante. Il lit même une déclaration dans ce sens. « J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences. » Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon ni indulgence. Je ne sollicite pas ceux que je hais et que je méprise. Tout ce qu'a entendu le romancier dans cette salle de tribunal va lui servir pour imaginer des aspects de son Lupin. Tout ce qui touche à Jacob va habiller Lupin, va le rendre vivant, en phase avec son époque. La cambriole, les châteaux et villas dévalisés, une bande importante à son service, des lieutenants, des moyens modernes, le refus d'être jugé et des intentions de revanche contre la société. Au sortir des Assises à Amiens, Leblanc est rassuré. Il peut accepter la proposition de Laffitte. Il a déjà le double aspect de son héros. La déclaration que Jacob a lue à son procès a dû lui rappeler mot pour mot les théories des grands anarchistes qui l'avaient précédé, les poseurs de bombes qui voulaient une déflagration de la société, les fameux lanceurs de machines infernales qu'avaient été, à la fin du siècle précédent, les Ravachol, les Vaillant, les Émile Henry. Redoutables. Et tous anarchistes. Mais Lupin va nourrir en lui d'autres natures secrètes. Cela nous amène maintenant à ouvrir et à feuilleter avec vous la passionnante aventure d'Arsène Lupin qui porte le titre « La comtesse de Cagliostro ». Celle-là même qui a inspiré le flamboyant film où Romain Duris endosse la cape du bel Arsène. Le romancier nous y décrit la naissance de Lupin, son milieu social, son enfance, son initiation au cambriolage, ses premières amours, sa personnalité complexe, voire ambiguë. Les 1000 aspects de son personnage, les 1000 vies d'Arsène Lupin. Soyez attentifs. Nous sommes bien éloignés du portrait que nous ont laissé les incarnations cinématographiques de Jules Berry, Robert Lamoureux, Georges Descrières, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel, François Dunoyer et leurs successeurs. Où est né Arsène Raoul Lupin? Eh bien, Leblanc ne le précise pas. On a dit à Blois, ce qui n'est qu'un leurre, peu vraisemblable. Un chercheur a suggéré le donjon à Étretat, château anglo-normand qui surplombe les falaises et la plage de Galée. Le site est aujourd'hui devenu un hôtel et restaurant de luxe. Ah, on peut rêver. Ça ravirait d'ailleurs le bel Arsène. Hypothèse assez séduisante donc, d'autant que la ville est éminemment lupinienne avec la villa de Maurice Leblanc, le clos Lupin, devenu musée vivant du gentleman cambrioleur. Nous avons par contre une date de naissance plausible, 1874. La mère d'Arsène s'appelle Henriette d'Andrézy, son père Théophraste Lupin. Nous savons que ce dernier était un simple professeur de gymnastique, d'escrime et de boxe. C'est pour cette raison que sa belle famille n'apprécia guère qu'Henriette s'éprenne d'un simple roturier. Et déjà dans ses gènes, voilà le petit Arsène balancé entre une ascendance aristocratique et un héritage peu recommandable, puisque derrière ses activités sportives, Théophraste cache surtout une vocation bien remplie d'escrocs. Il finira condamné et emprisonné aux États-Unis où il décédera. Le petit Arsène est vite placé en nourrice, dans un village incertain. Puis ce sera la vie à Paris qui émerveille l'enfant. La mère a repris son nom de jeune fille. Elle et son fils sont désormais des d'Andrézy. Dans la gêne, Henriette accepte un emploi de servante chez un cousin éloigné, le duc de Dreux-Soubise. Situation humiliante pour l'enfant et sa mère. Amour et haine à l'égard de la noblesse s'insinuent en lui. Adulte. Il saura à la fois l'humilier, l'envier, la voler. Raoul d'Andrézy et Arsène Lupin sont les deux cartes de visite d'un même être en devenir. Devenir quoi? Devenir qui? Il ne renie pas ses gènes. À 6 ans, il commet sa première action d'éclat. Sur place, au château, il vole aux Dreux-Soubise leur bien le plus précieux, le fameux collier de la reine que Marie-Antoinette avait refusé. Soupçonné, l'enfant est relégué à l'étage des domestiques avec sa mère, puis tous deux sont congédiés. On perd alors leurs traces. On sait que, comme dans les mélos de l'époque, Henriette tombe malade et meurt alors que le garçonnet a 12 ans. Ses années de formation ne sont pas précisées. Misère, de toute évidence. Années mouvementées, études de médecine, de droit, essais d'acteur, puis professeur de sport de défense. Il trouve enfin une voie. Brûlé d'ambition, imagine Leblanc. Ne sachant pas dans quel domaine et par quels moyens se réaliseraient ses rêves de gloire, de fortune et de puissance, il se dépensait de tous côtés pour être prêt à répondre à l'appel du destin. Intelligence, esprit, volonté, adresse physique, force musculaire, souplesse, endurance. Il cultiva tous ses dons jusqu'à l'extrême limite. Gloire, fortune, puissance. Son programme vital est désormais défini. Ajoutons-y les aventures amoureuses sur la Côte d'Azur, par exemple. Il y séduit une jeune femme nommée Geneviève qui aura une fille de lui. Instable, trop jeune, il la quitte, lui brisant le cœur. Le sort se vengera quand une comtesse d'Origny lui imposera le même chagrin en refusant de l'aimer. Mars 1894, coup de foudre pour Clarisse Détigue, dont le père lui refuse la main, du moins provisoirement. Car à ce moment surgit la vénéneuse et dangereuse Joséphine, comtesse de Cagliostro. Elle se programme immortelle car descendante du mage Cagliostro et de Joséphine de Beauharnais. Pas moins. Chef d'un gang redoutable, elle écume la Normandie et vit sur une péniche qu'elle amarre au bord de la Seine ou au Havre. C'est là qu'elle va vivre un début de passion avec le jeune Arsène de près de 20 ans. Cette fois, il a trouvé son initiatrice, en chasse au trésor et en amour. Car elle va lui apprendre la volupté dans le raffinement, l'opium et la douleur. Avec elle, puis contre elle, le jeune Lupin tentera de retrouver le fameux trésor des abbayes de Normandie, de Jumièges à Fécamp. Enfin marié avec Clarisse Détigue, il entre dans la grande classe du cambriolage et du décodage d'énigmes, à l'insu de son épouse, bien entendu. Puis ce sera la fameuse quête du trésor des rois de France avec l'aiguille creuse. Cette fois, Arsène est enfin devenu Lupin. Il est tel que nous le connaissons et que nous l'aimerons toujours. Mais il cache bien son jeu. Si l'on relit la fin de la comtesse de Cagliostro, nous découvrons un Lupin bien plus inquiétant, plus sombre, plus mégalomane qu'on imagine. Sa rencontre avec la Cagliostro lui a appris que le souvenir de l'amour est, je cite, « un âpre besoin de haine et de provocation ». Face à sa rivale, Lupin l'élève, devient Lupin le maître. Et c'est à la dernière page du roman que Maurice Leblanc bouscule les images légères que nous aurions pu nous faire. Lupin avait dans le sang le besoin de prendre, de combiner, de mystifier, de duper, de s'amuser aux dépens d'autrui. Il était d'instinct contrebandier, flibustier, maraudeur, pirate, conspirateur et surtout chef de bande. En outre, à l'école de la Cagliostro, il s'était rendu compte, avec un certain orgueil, des qualités vraiment exceptionnelles qui le mettaient hors de pair. Il croyait à son génie. Il s'attribuait des droits à une destinée fantastique, en opposition avec la destinée de tous les hommes qui vivaient en même temps que lui. Il serait au-dessus de tous. Il serait le maître. Il va ainsi triompher au cours de la Belle Époque. Celle-ci n'est en fait belle que pour les nantis et les gens de pouvoir. Et pourtant, il s'agit de l'âge d'or pour Lupin. C'est au cours de ces années qui précèdent la Grande Guerre qu'il impose son image, sa silhouette de dandy. C'est elle que l'on verra en couverture des éditions des années 30 chez Pierre Lafitte et même encore des rééditions actuelles. Chapeau de forme, monocle, longue cape, nœud de cérémonie, canne à pommeau, écharpe élégante et frac de soirée, même quand il court sur les toits des immeubles là où il opère. Dans l'intimité, il s'exhibe devant ses conquêtes en pyjama de soie ivoire, avant de passer à la nudité propice au plaisir de la chair. Même nu, il séduit, mais de cela Leblanc ne parle jamais. Question d'époque. Arsène a et entretient un corps d'athlète. Il a été à bonne école avec son père. Depuis, il se muscle et sculpte son corps, de quoi lui permettre ses voltiges, les efforts physiques qu'exigent ses casses, ses fuites empressées et l'intensité de ses amours. Bref, Lupin gagne le grand prix d'élégance de la littérature des années fin de siècle aux années folles. Cette pratique du fitness s'accompagne d'une diététique qu'on soupçonne à peine. Ainsi, quand le montant en l'air dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmès dîne avec Maurice Leblanc, hein, dans un petit restaurant proche de la gare du Nord à Paris, on est surpris d'apprendre ses saines habitudes. Les conventions sur la nourriture l'intéressent peu. Il ne consomme ni viande, ni alcool. Il déclare qu'il est de plus en plus végétarien. Oh, ni par goût, ni par habitude, ni par croyance, mais bien par hygiène. Il ne commet une entorse à son régime que quand il va dans le beau monde, afin, dit-il, de ne pas se singulariser, à savoir ne pas se faire repérer. On sait aussi qu'il se rend au bain turc tous les vendredis pour maintenir sa ligne et entretenir sa vigueur. Il est même le premier héros d'aventure qui bronze en haute montagne, ce qu'il nomme une application solaire. Il fera de même un jour dans le roman « Là-bas Riva ». Pour mieux réfléchir, il s'étend sur la plage de Sainte-Adresse, près du Havre. Bien d'autres aspects du personnage échappent au grand public qui n'a pas lu ses aventures. Lupin cultive sa musculature. Mais il se cultive aussi. Aussi est-il abonné à l'opéra. Il ne ressemble en rien au cambrioleur de romans policiers par son souci de la distinction. Distinction dans sa mise, dans son langage. Et quand il perce un coffre-fort, il le fait comme un chirurgien qui opère l'appendicite d'une mondaine parisienne. On apprendra qu'il dépense des sommes folles en parfums pour hommes de chez Guerlain. C'est un raffiné. Il possède des appartements au Ritz, au Savoy de Londres, au Danieli de Venise. Il hante et salue les grands de son époque, de Diaghilev à Caruso. Son époque se retrouve aussi dans un certain snobisme qu'il cultive. Il a certaines poses pareilles à celles que s'octroie à la même époque. Les personnages de Proust qui hantent les salons mondains. Mais cette affaîtrie n'est que de façade, comme une sorte de masque protecteur. Il s'amuse, joue les dilettantes. Il fait le bien, il fait le mal, mais cela demeure ludique chez lui. Il aime dépouiller les aristocrates de province, ceux-là même qui se croient invincibles et cachent leur collection de bijoux et de tableaux dans leur petit château. Mais il met les rieurs de son côté. Pénétrant chez le baron Scormann pour le dévaliser, Lupin, dépité, en repart les mains vides. Il ne manque pourtant pas de laisser sa carte de visite bien en vue. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. C'est un détail que Leblanc a aussi emprunté à l'anarchiste cambrioleur Jacob, qui faisait de même, en laissant une carte de visite signée Hannibal. Les innovations dans la saga nous étonnent parfois. Ainsi, ce début d'histoire des Jeux du Soleil, sur le divan de Maurice Leblanc, vient s'allonger Lupin lui-même. Et Leblanc nous gratifie alors d'une fantaisie d'écriture hardie pour l'époque. Il devise nonchalamment avec sa créature. Leblanc interroge Lupin sur ses aventures. Et Lupin se fait désirer. Délectable. La scène se situe en plein Paris, au domicile de l'écrivain. 10 bis, rue Piccini, narré dans « Les confidences d'Arsène Lupin » de 1913. Mieux, on y voit Lupin et son père littéraire se lancer ensemble dans l'enquête qui nous est contée. Ainsi, l'écrivain devient-il le seul biographe autorisé de son personnage. Mais il est aussi le seul géographe de son personnage. Et il emmène son Lupin dans des lieux divers qu'on ne soupçonne même pas, comme le Maroc de la Légion étrangère, comme notre Belgique. Savez-vous par exemple que Lupin vient à Bruxelles à la fin de son enquête sur la demoiselle aux yeux verts ? Dans des conditions sentimentales qui font chavirer les cœurs. Il reçoit d'une belle Aurélie une lettre ardente qui se termine par « Je m'en vais, Raoul. Ne cherchez pas à savoir où je suis. » Il n'a pas envie d'attendre. Sacré Lupin. Il a raison de ne pas se décourager puisqu'il reçoit un télégramme quelque temps après où la jeune fille le prie de venir à Bruxelles le lendemain et lui fixe rendez-vous au Bois de la Cambre. Il s'y précipite. La voix arrivée souriante, résolue, avec un air de tendresse infini. Mais elle lui susurre, « Raoul, vous n'êtes pas homme à aimer toujours, ni même, hélas, bien longtemps. » Voilà qui est dit. Elle lui donne quand même rendez-vous le soir au Théâtre Royal, comprenez, à la Monnaie donc. Vous y trouverez une baignoire. On y joue la Bohème, un opéra de 1896. Il s'y rend. Aurélie est la cantatrice vedette de l'œuvre de Puccini sous le nom de Lucie Gauthier. À la fin de l'opéra, il se fait conduire dans la loge de la triomphatrice. La jolie tête blonde s'inclina vers lui. Leurs lèvres s'unirent. Fondu, baiser, fin, comme on dit au cinéma. Loin des triomphes lyriques de la Monnaie, Leblanc a surtout donné à Lupin son amour pour son propre territoire natal, sa vraie région affective. Des paysages que l'écrivain a sillonnés si souvent en bicycle, puis en automobile, seul ou en galante compagnie, avec une griserie que Leblanc attribue aussi à Lupin, celle de la vitesse. La phrase même de l'écrivain est dynamique. Elle court vite sur la feuille, elle nous emporte. C'est pareil quand son personnage file à toute vitesse dans les campagnes du pays de Caux, la contrée préférée de Lupin. Elle est là, dans ce pays cauchois et dans les boucles de la Seine. Leblanc, d'ailleurs, se fait même chroniqueur touristique. Dès sa deuxième nouvelle pour « Je sais tout », il écrit avec lyrisme « Il n'est point de touriste digne de ce nom qui ne connaisse les bords de Seine et qui n'ait remarqué, en allant des ruines de Jumièges aux ruines de Sainte-Vendrille, l'étrange petit château féodal du Malaquis. Dans l'aiguille creuse, il récidive Rouen, Dieppe, Le Havre, le triangle cauchois. Tout est là, d'un côté la mer, d'un autre la Seine, d'un autre les deux vallées qui conduisent de Rouen à Dieppe. Mais l'endroit le plus emblématique de Lupin demeure les falaises d'Étretat. Encore aujourd'hui, vous côtoyez Lupin si vous les escaladez. Le soleil d'hiver peut jouer aux impressionnistes avec des nuages à la Debussy ou à la Monet. Peu importe, vous êtes à la fin du roman l'aiguille creuse. Vous êtes Lupin. Mais vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, durant les week-ends, même ceux de basse saison, des groupes entiers de promeneurs grimpent là-haut, fascinés par l'aiguille creuse, la fameuse pyramide de calcaire et sa voisine, la porte d'aval. Aucun d'entre eux n'a de curiosité géologique. Ils viennent ici pour Omar Sy, pour le Lupin de la série Netflix, pour Lupin. Ils photographient à tout va, se prennent en selfie devant ce paysage magique ou dans la grotte des Demoiselles. Dans cette excavation, ils cherchent en vain le message codé que Lupin déchiffrait. Pour se consoler, les amoureux y gravent le nom de leurs petites amies. Ceci prouve que Lupin est éternel et le restera. Tous ceux qui viennent pour la fameuse aiguille savent-ils qu'elle n'est creuse que par l'imagination de Maurice Leblanc. Ces jeunes, en majorité, ont la vingtaine jusqu'à la trentaine. Certains viennent des banlieues de la capitale et de grandes villes. D'autres sont des touristes étrangers. Ils sont venus de partout, touchés par le personnage parce que l'acteur qui endosse la peau de Lupin, à savoir Omar Sy, sort des mêmes banlieues qu'eux. L'enfance difficile et malheureuse de Lupin est parfois la leur. Donc socialement, Lupin est toujours actuel. Le succès planétaire de l'adaptation produite par Netflix l'a prouvé. Et tant que la fameuse aiguille d'Étretat se dressera dans l'écume des vagues qui rongent ses falaises, on entendra le rire de Lupin se moquer de la suffisance, de la médiocrité et de la richesse. Et c'est ainsi qu'il nous enchantera encore pour très longtemps. Voilà pour le récit de ce fabuleux personnage de fiction que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.